Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 616 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. Appellation Margaux, la renaissance du Pecorino. On verra si c'est du vin ou du fromage. Les vins effervescents avec des feuilles d'or. Et oui, ça existe. La nouvelle édition du guide des croqueurs de chocolat. Olivier Moret pour le Château Louis. Comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie de Philippe Forbrack, David Cobol, Jacques Pessis et Christophe Siraglidi. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors Christophe, dans l'agenda du vin, nous commençons par le Luxembourg.
Oui, le prochain dîner du Wine & Business Club Luxembourg se déroulera le jeudi 27 octobre dans les salons du Clubhouse 17. Au menu, économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Ensuite, la voie est directe entre Luxembourg et Draguignan. Nous y sommes, Christophe.
Oui, enfin assez direct. Rendez-vous à Draguignan donc pour la 4e édition du salon Autour du vin qui se déroulera le week-end des 29 et 30 octobre. Volonté, qualité, proximité, diversité et nouveauté sont les maîtres mots de cette nouvelle édition.
Dis donc, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de mots, oui. Effectivement, beaucoup d'objectifs à remplir. Et avec donc plus de 50 exposants pour les remplir, parmi lesquels des domaines viticoles, des produits du terroir, de l'artisanat d'art et des métiers de bouche. Et au programme, démonstration culinaire, atelier d'initiation à la dégustation ou animation pour les enfants même. Rendez-vous sur le site tourisme-dracenie.com pour plus de détails.
Allez, il y a rien pour les chiens ?
Pour les c'est chiens, pas dit, mais il y a pour sûr, les... et autres.
Bon, d'accord, David. C'est le début de l'émission, tout va bien. Ça va aller mieux tout à l'heure. Direction les Cévennes, Christophe.
Cévennes, quand une poignée de vignerons rencontre deux passionnés de vin, d'art et de voyage... Que font-ils ? Ils imaginent une balade vigneronne et l'appellent les vignes Riboussières. Et donc le dimanche 30 octobre, 12 vignerons vous accueilleront le long d'un parcours de 3,5 km entre vignes et garrigues avec de magnifiques vues sur les montagnes Cévenoles pour une dégustation de 36 vins en IGP Cévennes. Et les places pour cette balade entre Andouze et Saint-Hippolyte-du-Fort dans les Cévennes. Donc, et ces animations sont au prix de 13 €. Pour plus de précision, il faut aller sur vin au pluriel des Cévennes, tout attaché, hein, vindescévennes.com, mais vin au pluriel.
Merci Christophe. David Cobol, les Cévennes, c'est un très joli paysage, c'est beau.
Ah, c'est magnifique, oui. C'est le pays de Robert Louis Stevenson qui a traversé les Cévennes à dos d'âne, en passant par la Lozère et les gorges du Tarn. C'est absolument spectaculaire, oui. Et
vous connaissez Christophe,
c'est Cévennes? C'est un pays protestant aussi qui a une histoire lourde sur le plan des guerres de religion et... avec des fiefs de protestantisme qui ont été réduits à très peu de monde et qui ont résisté dans ce pays assez désertique. C'est un très beau pays.
Philippe Orbach, 1957.
Je croyais que vous me posiez une question sur les Cévennes parce qu'il y a des,
est-ce que vous aimez
il y a
les Cévennes?
Des mines extraordinaires et puis il y a des vins aussi dans les Cévennes.
Et oui. Oui,
intéressant, notamment le duché d'Uzès, par exemple, qui n'est pas très très loin
et sur et pas très cher en plus.
Contrefort, exactement.
Et Philippe a un ancien collègue qui fait du vin en duché d'Uzès.
Exactement, Philippe Nuswitz. Oui. Qui est un ancien sommelier, mais qui est toujours un collègue. Donc c'est pas un ancien collègue.
Oui, oui, oui.
Et que je salue bien et qui est devenu
très
il y a quelques
vins,
temps exactement aussi. Président des sommeliers de cette région Languedoc-Roussillon qui va jusqu'à maintenant la région toulousaine appelée l'Occitanie.
1957, Philippe Forbrack. Est-ce que c'est une bonne année pour le vin?
Pas terrible, non. C'est vrai qu'il faut avouer qu'il s'est passé quand même un événement un peu dramatique en décembre 56. C'est le fameux gel historique de 56 qui a décimé quand même pas mal d'endroits. Et il y a le vignoble avant, le vignoble après d'ailleurs. Et d'ailleurs, le vignoble a plutôt bénéficié du gel. Alors qu'il y a certaines récoltes à long terme. Parce que il y a des endroits où il y avait des fruitiers, tout ça, qui ont été abandonnés, des oliviers qui ont été arrachés, on a remis de la vigne. Et ça a permis, après, justement, l'hiver 56-57, de recréer quand même le vignoble. Bon, résultat des courses, 57, c'était quand même pas terrible. Il y avait peu de rendement. Il y a des endroits où on n'a pas franchement vendangé. Et le résultat a donné quand même des vins qui ont eu un succès d'estime pendant quelques temps, mais qui aujourd'hui sont un petit peu loin derrière nous.
Donc 1957. Jacques Pessis, qu'est-ce qui s'est passé en 1957? Vous avez un souvenir peut-être marquant, théâtral, ou littéraire, ou autre chose?
En 1957, comme ça, a priori, il y a les débuts dans la chanson de Dalida avec Bambino.
Oh là là!
La Bambinite, la France qui est fragile dans la Bambinite.
Vous pourrez nous pousser un peu la chansonnette de Bambino, Philippe?
On va essayer de faire radio avec Jacques, tous les deux, Bambino, Bambino.
Et on appelait ça la Bambinite parce que la France entière fredonnait ce refrain qui était un refrain italien au départ, découvert par Lucien Maurice, qui était une chanson qui a vu un succès avec un orchestre totalement oublié aujourd'hui, qui s'appelait Marino Marini.
Il est trop fort, ce Jacques.
Mais néanmoins, cette année-là, il y a quand même de très jolis personnages qui ont vu le jour, puisque Caroline de Monaco, Carole Bouquet, Cécilia Attia, ex-Sarkozy, Chantal Lobby, Fanny Cotenson, Mimi Mati, Véronique Jeannot, et côté garçon, Michel Simès, dont on parle souvent, André Manoukian, qu'on entend souvent, ou Bernard Montiel, qu'on apprécie souvent, sont au ciné dans ce
Vous avez Philippe Audouin ou pas dans les People nés en 1957,
On ne peut pas l'oublier.
Ben voilà, c'est le premier invité, le DAF d'Orazio et surtout président de la DFCG également. Plutôt bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors vous êtes diplômé d'HEC, vous avez commencé par créer une boîte dans l'informatique, racontez-nous un peu.
Absolument, en fait avant de quitter l'école, on avait décidé de créer une entreprise que nous avons ensuite développée pendant une dizaine d'années, d'abord dans le domaine de l'informatique et de la bureautique, et puis ensuite quelques années plus tard on a repris également une vieille boîte industrielle qui s'appelait la Compagnie Parisienne des Câbles, qui avait été créée après la guerre, qui avait grandi avec la reconstruction et puis qui avait commencé à avoir quelques difficultés, donc on l'a rachetée à ce moment-là pour la redévelopper.
Créer un groupe, vous l'avez revendu le groupe après?
Je l'ai revendu après, au bout d'environ 10 ans de développement, parce que j'avais au fond toujours connu que mon entreprise, et je m'étais dit à un peu plus de 30 ans,
allez,
c'est le moment de faire un choix, soit je finirai dans cette direction-là, soit j'essaye de découvrir autre chose. J'ai eu envie de découvrir autre chose.
Vous êtes parti en Allemagne?
Je suis parti en Allemagne. Le hasard m'a conduit comme fondé de pouvoir dans la première joint venture entre France Télécom et Deutsche Telekom. C'était une superbe aventure. C'était une entreprise qui était née d'une rencontre à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt, qui voulaient qu'une collaboration se développe dans les télécoms. Donc suite à ça, Marcel Roulet, qui était alors président de France Télécom, et son homologue Helmut Rilke s'étaient rencontrés. C'était compliqué pour deux opérateurs historiques de faire quelque chose ensemble, chacun défendant bien sûr son précaré. Alors ils ont eu l'idée de développer une entreprise qui aiderait à créer des services à valeur ajoutée sur les télécoms. Au fond, ça mangeait pas de pain, c'était un peu aux frontières de l'Empire, mais ça permettait aux deux groupes de faire connaissance. On avait des conseils qui commençaient la veille au soir, avec un dîner raisonnablement arrosé, mais correctement néanmoins, mais ça permettait de faire connaissance. Le lendemain matin, le conseil se déroulait, se terminait par un déjeuner, et tout le monde rentrait chez soi à cette époque-là.
David Cobol.
Je suis curieux, quant au vin qui était dégusté lors de ces dîners, est-ce que c'était bipartite français-allemand?
Alors c'était très organisé, parce que dans ces grandes administrations, tout est très organisé, enfin c'est plus une administration aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. On avait un conseil à Paris, un conseil à Bonn et un conseil à Sarrebruck, où était installée l'entreprise, à peu près à mi-distance. Et donc on essayait au fond de privilégier les produits locaux à chaque fois.
David Cobol, le vignoble allemand, il existe, hein, on va le rappeler. Bah,
comment? C'est le cinquième producteur en Europe et je crois le septième ou neuvième au monde. Et même si aujourd'hui c'est 70% de blanc toujours, avant c'était bien plus, les rouges gagnent du terrain, surtout dans la partie sud-ouest. Il y a de magnifiques pinots noirs en Allemagne. Mais je rappelle, le grand cépage allemand, c'est bien sûr le Riesling, suivi du Silvaner. Mais c'est des vins absolument extraordinaires et qui sont à part. La législation est assez différente. Il y a des grands secs, des grands doux et des grands très très grands liquoreux.
Philippe Aubrac et après Philippe Audouin.
On estime même que c'est un vignoble d'avenir, parce qu'avec l'évolution du climat, on prête beaucoup finalement au développement de l'Allemagne en termes de viticulture. Il faut dire qu'ils ont des endroits magnifiques. La Moselle par exemple,
c'est très beau,
sculpté presque.
Un des plus beaux vignobles
au monde. C'est très très beau, c'est saisissant. La Rheingau avec sa douceur un peu plus caressante.
C'est presque aussi beau que Bagnols.
On a parlé il n'y a pas très longtemps du Rheinpfalz Palatina à l'antenne, et c'est vrai que il y a vraiment de très très jolies régions viticoles. Je crois qu'il y a 13 secteurs viticoles identifiés, dont deux dans l'ancienne Allemagne de l'Est, mais qui sont très intéressants aussi.
Philippe Audouin, vous connaissez un peu, vous écoutez un peu les vins allemands, vous étiez obligé.
Absolument, j'ai goûté les vins allemands. En fait, j'ai retrouvé sur place une jeune femme, nous avions des enfants dans la même école, qui était une fille Gigal.
Ah, mais il y a pire comme
elle avait monté une boutique de vin à Sarrebruck et elle organisait régulièrement des démonstrations. Puis je voudrais dire aussi qu'il y a en Allemagne une délicieuse curiosité qu'on trouve d'ailleurs également au Canada, qui est le vin de glace, qui est produit en très petite quantité, uniquement certaines années, puisqu'il faut que la météo le permette, mais c'est absolument délicieux.
Et le problème est que la météo le permet de moins en moins.
Jacques Pessis a un bon conseil d'une pièce à aller voir à Munich en ce moment, par exemple.
Non, il y a souvent des chanteurs français qui se produisent à Berlin, notamment. Il y a une grande salle, et la chanteuse Caroline Rose, avec qui je fais le spectacle de Piaf, une vie en rose et noire, se produit régulièrement à Berlin pour un spectacle de chansons. chansons françaises, car les Allemands sont très amateurs.
On n'avait pas le mouvement inverse. Est-ce que Mike Brandt n'était pas d'origine allemande?
Pas du tout, non. Il est né en Israël.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est un peu plus loin.
David Cobol, restez dans le vin. C'est parfait, le vin. Philippe Audouin, donc, depuis 2002, vous êtes directeur financier et membre du directoire d'Euraseo. L'entreprise, donc, le groupe Euraseo, était créé en 1881.
Absolument, la même année que la célèbre loi sur la publicité qu'on voyait écrit sur les murs. C'était à l'origine une entreprise, une sorte de utility, fournissait du gaz et de l'eau. Le nom de l'entreprise, d'ailleurs, à l'époque, c'était Gazéo. Puis ensuite, la société a cessé d'être une utility. Elle a modifié un petit peu son nom pour s'appeler Azéo, pour finalement fusionner avec une autre entreprise qui s'appelait Eurafrance, et le mariage des deux a donné Euraseo.
CQFD 2015, financièrement, ça a été une top année pour vous.
Oui, en 2015, je crois que nous avons fait le plus fort résultat de toute l'histoire de l'entreprise, avec pas loin d'1,3 milliard d'euros de résultats nets par du groupe. Donc c'était une très très belle année.
Et 2016, vous êtes à côté de riche ou pas, alors?
Alors, nous avons, un résultat qui est très, très fluctuant, puisque les normes comptables nous conduisent à ne comptabiliser la création de valeur dans le groupe qu'au moment où nous cédons une de nos sociétés. Nous sommes, je rappelle, une société d'investissement. Donc, on investit dans les sociétés, on les accompagne dans leur développement pendant un certain nombre d'années. Et puis, au bout d'un certain temps, on les cède pour dégager des ressources pour investir dans de nouvelles entreprises.
Aujourd'hui, donc, le portefeuille, vous avez investi dans 33 sociétés, quelques noms peut-être,
34, même aujourd'hui.
34 aujourd'hui, oui. Voilà.
Donc, nous sommes effectivement chez Accor, chez Europcar, chez Moncler, chez Desigual, chez Elis.
Et vous mettez un petit peu de sous également dans les startups, et les startups qui ont déjà fait leur preuve, si je puis dire.
Alors, pas au tout démarrage, parce que on gère un peu plus de 5 milliards d'euros d'actifs, et mettre 1 ou 2 millions dans une entreprise, même si on faisait 10 fois la mise, ce qu'on ne fait pas généralement en moyenne, ça ne se verrait pas beaucoup. Mais effectivement, des startups qui sont à leur deuxième ou troisième levée de fonds, et là, nous sommes dans de très très belles sociétés, comme par exemple United, qui s'appelait jusqu'à une période récente Près d'Union, qui fait du crowdfunding. Crowdlending, pardon. Nous sommes également actionnaires d'une très très belle société qui s'appelle PeopleDoc, qui est une société qui offre des services dématérialisés de gestion des ressources humaines, avec des coffres-forts numériques pour les personnes et puis des prestations pour l'entreprise. On a aujourd'hui plus de 3 millions de coffres-forts. Et on vient de signer, la société vient de signer d'ailleurs Nestlé, avec 300 000 personnes dans le monde. Donc une très belle société. Et elle est intéressante parce qu'elle a été créée par deux fondateurs qui se sont dit tout de suite... Il faut qu'on soit international. Oui. Et donc, l'un des deux est resté à Paris, l'autre est parti s'installer à New York.
Oui, parfait. Vous êtes également président de la DFCG. Alors, ça veut dire quoi, DFCG?
La DFCG, c'est l'Association nationale des directeurs financiers et du contrôle de gestion.
Combien de personnes au total? Combien de membres?
On a aujourd'hui un peu plus de 3000 membres cotisants, répartis dans 14 régions de France. On organise 400 manifestations par an, la plus importante étant notre congrès Financium, début du mois de décembre. À Paris.
Et un budget de fonctionnement qui est déjà très agréable. Hein.
Alors c'est une PME, nous avons une vingtaine de permanents, donc effectivement pour produire tout ça, il faut du monde et on a une belle équipe.
Qu'est-ce que vous faites? On vous voit souvent du côté du château de Chambord, Philippe.
Ah, ça c'est plus par amour de ce territoire extraordinaire. Chambord, c'est pas toujours très connu, mais c'est le plus grand bâtiment civil construit dans le monde à la Renaissance. Le plus grand bâtiment religieux, c'était Saint-Pierre de Rome. Le plus grand bâtiment civil, c'était Chambord. Et Chambord, c'est une merveille. Le château lui-même, et surtout quand on arrive, on ne le voit pas tout de suite, on ne le voit pas de loin. Il apparaît subitement au détour d'un morceau de forêt. C'est un très très beau bâtiment. Le domaine également est unique, puisque c'est le plus grand domaine clos d'Europe, 5400 hectares, entouré d'un mur de 32 kilomètres.
32 kilomètres.
32 kilomètres. Alors, c'est toujours un mur en pierre sèche, parce que l'architecte des bâtiments de France ne veut pas qu'on fasse autrement que du temps de François Ier, si bien que tous les ans, il faut reconstruire quelques centaines de murs.
Alors, Jacques Messis, David Cobol, Philippe Forbrac.
Mais il faut savoir, pour parler de chansons, que François Ier a écrit 51 chansons. Je ne sais pas si vous le savez.
Bon,
oui. Pendant son règne, il écrivait des chansons mises en musique par ses musiciens au château, et ces chansons ont été souvent reprises. Même aujourd'hui, on a la trace de chansons d'amour, de poèmes d'amour dignes de Charles Trenet.
Eh bien, David Cobold.
Je signale qu'on est en train de planter la vigne à Chambord également, sous l'égide de Henri Marionnet, je crois bien.
Oui. Absolument, on va replanter une vigne à Chambord, et tout le monde peut acheter un pied de vigne à Chambord. Je vous invite à le faire. Ça coûte 1000 euros le pied de vigne, mais c'est déductible fiscalement puisque c'est...
Combien de litres de vin par an? Parce qu'avec...
c'est pas très rentable sur ce plan-là, c'est un acte de bienfaisance.
Monsieur, c'est très bien. Philippe
Ils ont planté essentiellement du romorantin, qui est le grand cépage cher à François Ier.
Et une vigne préphylloxérique.
Oui, exactement.
Ah oui, c'est pas ça.
Que Marionnet a
non greffé, pas exactement préphylloxérique, mais non greffé, c'est pas la même chose.
Philippe Audouin, vous rentrez de 15 jours passés au Portugal. Sympa?
Superbe. C'est un pays que je connaissais mal. Et que j'ai beaucoup aimé, et c'est aussi un grand pays producteur de vin. J'avais organisé pour mon épouse, mes enfants et moi-même une petite dégustation avec un sommelier là-bas. Ça aurait été dommage de ne pas le faire.
Bien sûr.
J'ai appris qu'ils avaient 254 cépages. Nous avons, nous, 400 fromages, mais ils ont 254 cépages.
Oui, ce qui est beaucoup par rapport à pour la taille du pays.
Bien exactement. Sûr.
Et dans la seule vallée du Douro, il y a une centaine référencées.
Bon, c'est pas mal. Dans votre cas personnel, Philippe, pour terminer, vous avez combien de flacons?
Oh, je dois avoir, je sais pas, quelque part entre 500 et 1000 flacons.
D'accord, c'est d'accord. On viendra chez vous. N'hésitez pas à nous inviter.
Hein, mais vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, Philippe Audouin, et bon vent pour vos multiples projets professionnels, également personnels, de BFM. Toujours en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, Place de la Madeleine. Retrouve Christophe Seraglini, avocat associé du cabinet Beto Seraglini, pour nous parler non pas d'arbitrage international, mais d'un espèce de truc. C'est du fromage ou du vin aujourd'hui?
Alors, en fait, je vais vous parler pecorino. Mais je ne vais pas vous parler fromage. Ce fameux fromage de brebis italien aux multiples variantes. Hein, si on connaît un peu, vous avez le pecorino romano, sardo, toscano, siciliano, diffiliano, et avec des sous-variétés.
Et pourquoi ça finit par no à chaque fois?
C'est italien.
D'accord.
C'est le pecorino.
Bon,
c'est
la
Bambino, pecorino.
Voilà. Donc, on s'y perd un peu. Hein. Quand on n'est pas spécialiste, c'est un très bon, le point commun, c'est de la brebis, mais au-delà, c'est un peu difficile. Non, je vais vous parler vin. Je vais vous parler d'un vin qui s'appelle le pecorino et qui partage cependant avec certains fromages le fait d'avoir failli disparaître. Et qui partage
par le fait qu'il est fait par des chèvres.
Voilà. C'est, mais je vous raconterai la légende quand même, qui est assez amusante. Et aussi qui partage avec le fromage du même nom, le pecorino, le fait que aujourd'hui il subit de multiples appellations, parce que s'il est né dans les marches, on le rencontre dans beaucoup d'autres endroits aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le pecorino? En fait, c'est un vin blanc. D'abord, dans le dire, qui est reconnaissable à une robe dorée, avec des nuances légèrement vertes, on va dire, un peu comme l'huile d'olive, et qui se reconnaît sur le plan du goût et des effluves, des arômes, par des notes fruits tropicaux, miel, mais aussi assez herbacées, et une pointe d'acidité assez sympathique qui en rend dégustation agréable, assez fraîche. Alors, c'est un cépage très ancien, typique donc des Marches et des Abruzzes, donc on est sur la côte adriatique, qui, selon alors différentes légendes quant à l'appellation, je vous en donne deux, il y en a certains qui disent que ce sont les moutons, les pecoras, hein, parce que en fait, pecora, c'est pas les chèvres, c'est les moutons, qui épaissaient sur les versants donc orientaux des Apennins et à côté de pieds de vigne et qui allaient manger ces grains qu'ils trouvaient très à leur goût. Bon, ça c'est une explication. Une autre explication, alors qui est plus amusante, c'est que ce sont des tout petits grains. Les grains de pecorino, et donc qui ressembleraient aux petites crottes des moutons, et c'est pour ça qu'on les aurait aussi appelés pecorino. Il y a différentes légendes
chacun son
là-dessus,
truc, hein, oui.
Je ne sais pas laquelle est là-bas.
Ça donne soif, votre truc, là.
En tout cas, c'est un vin qui avait quasiment disparu, qui avait été victime de la désertification des campagnes, et qui, parce que c'était une vigne sauvage, avait été déconsidéré, parce que c'est un cépage assez exigeant et à tout petit rendement. Mmh. Et en fait, en Italie, à l'époque, on a voulu faire du volume, et donc il n'était pas à la mode.
Et pas que en Italie, d'ailleurs.
Ouais. Oui.
Histoire classique, oui.
Et il a survécu, et il a trouvé même une seconde vie grâce à un entêté. Certains le croyaient fou, même ses filles le pensaient fou. Un viticulteur des Marches, donc qui est Guido Cocchi Grifoni, qui est aujourd'hui disparu, qui est disparu en 2010, et qui est vu aujourd'hui eh bien comme celui qui a redécouvert le pecorino. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'on est au début des années 1980 et il est le seul à croire dans le potentiel de ce cépage. Alors, il va acheter une toute petite parcelle à 1000 mètres d'altitude, donc un viticulteur qui part à la retraite, qui a 80 ans. Et il va commencer les travaux de recherche. Il va d'abord notamment voir si sur ces variétés sauvages, elles ont bien pour origine la région et quel endroit exactement dans la région. Et puis il va se mettre à planter et il va avoir sa première récolte importante en 1990. Mais alors c'est un produit qui est servi alors comme un vin de table. Hein, sans appellation, sans millésime, sans dénomination. Et puis la reconnaissance va venir petit à petit. En 2001, le Pecorino va obtenir la DOC, la dénomination d'origine contrôlée, et 10 ans plus tard, en 2011, va obtenir la dénomination d'origine contrôlée et garantie, la DOCG. Alors, c'est donc on peut considérer que ce rêve, cet entêtement de cet homme, eh bien se sont transformés en véritable réussite. Et le Pecorino est un vin aujourd'hui, alors assez peu connu en France, mais très prisé déjà aujourd'hui aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc ça marche très bien. Mais il risque, si j'ose dire, ça c'est un peu le revers de la médaille, d'être victime de son succès. Pourquoi ? Parce que si le premier vignoble des plantes mères qui avait été planté dans les années 1980 existe toujours, si l'exploitation familiale existe toujours, en réalité, c'est aujourd'hui dans les Abruzzes voisines, on descend un tout petit peu, que l'essentiel de la production se fait. Et une production qui a complètement explosé depuis les années 2000. Et on en trouve même maintenant ailleurs. On en fait dans les Pouilles, on en fait en Nombrie, on en fait dans l'Assium. Bon. Donc, il y a une extension, peut-être au détriment à la fois de la qualité et de l'identité de ce vin. Qualité pourquoi ? Parce que on fait de la production de masse, or c'est un cépage qui n'est pas fait pour faire du haut rendement. Donc on tire un peu sur la machine. Si j'ose dire, c'est un peu comme les brebis. Une brebis est têtue, elle ne donne le meilleur d'elle-même que si on la brusque pas trop. Et quant à l'identité, c'est vrai que c'est un vin qu'on a tendance maintenant à faire à toutes les sauces, italiennes ou pas, si j'ose dire, au risque d'avoir un goût un peu standardisé et de perdre les caractères d'origine de ce vin.
Mais Christophe, une question de fond, parce que vous avez dit que ça a obtenu le statut DOCG. Donc DOCG, ça veut dire une zone limitée. Donc tous les Pecorino ne sont pas DOCG.
Mais alors le problème, c'est qu'en Italie, du coup, selon les régions, ils ont une dénomination différente. Aux Abruzzes, c'est le Pecorino Tulum. Ah, oui. Dans les Marches, c'est l'Ofida Pecorino. Dans les Pouilles, c'est l'Uva Picoletta et Uvina. En Ombrie, c'est le Pecore et Uva Pecorina. Dans l'Assium, etc.
C'est un peu comme le fromage.
Voilà. Donc, ça, exactement. Il lui arrive la même chose qu'au Pecorino fromage, une multiple variété. Donc, j'espère que ce Pecorino tel qu'il a
va survivre.
L'original, c'est l'Ofida Pecorino.
Okay. Merci Christophe, Didier de BFM. On retrouve maintenant Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour nous parler de l'appellation Margaux.
On va quitter les chèvres, les moutons, etc. pour aller voir les agneaux, finalement. Je vous amène dans le Médoc, effectivement, dans le Haut-Médoc, plus précisément. Donc, on est au nord de la ville de Margaux, dans cette fameuse péninsule qui n'est pas italienne, mais médocaine, et dans laquelle on trouve de grandes appellations. Alors, si je vous dis que le décret date d'août 54, qu'il y a à peu près 1400 hectares de vignes en surface dans l'appellation, que le sol est situé et constitué par tant de graves, que l'encépagement est essentiellement du Cabernet Sauvignon, classique dans cette région bordelaise, un peu de Cabernet Franc, de plus en plus de Merlot, mais qu'on peut utiliser aussi la Carménère, le Malbec ou le Petit Verdot, que ça se sert volontiers à 18 degrés en fonction du millésime. Je vous ai parlé de quelques éléments techniques. Mais Margaux, c'est un nom mythique finalement. C'est une appellation qui occupe le rang de star dans le firmament des vins du Médoc et du Bordelais d'une façon générale. Sur ces terres de galets du sud de la presqu'île du Médoc, qui jusqu'au XVIIe siècle, il faut s'en souvenir, n'étaient couvertes que de landes pauvres et de champs de seigle, c'est-on aujourd'hui un vignoble unanimement reconnu comme l'un des plus prestigieux du monde. Alors l'appellation se concentre sur les pentes graveleuses, je dis tout à l'heure, c'est vraiment la typicité, qui encercle les villages de Margaux, dont il a issu le nom, Soussan, Cantenac, Arsac et Labarde également peuvent avoir droit à cette appellation. Et comme de raffinement, les rouges de Château Margaux, dont le prix est souvent quand même à la hauteur du renom, hein, c'est vrai, apparaissent comme des nectars délicats qu'on n'a pas finalement souvent, aussi souvent que ça, l'occasion de goûter. Alors c'est une appellation parmi les plus originales du Médoc. La géologie est particulièrement variée, on trouve des galets, on trouve des graves, des endroits plutôt sablonneux, donc il peut y avoir différents styles de Margaux.
contrairement à Saint-Julien, par exemple, voisine, juste au nord, qui a une unité géologique et pédologique donc importante, on a des styles assez proches, même s'il peut y avoir des nuances. À Margaux, il y a vraiment tout style de vin. Certains endroits sont plus propices au cépage Merlot, qui s'est quand même beaucoup développé ces dernières années. D'autres sont historiquement plutôt fondés sur l'expression raffinée du Cabernet Sauvignon. Mais d'une façon générale, on a de l'élégance, un soyeux, des vins assez aériens. Certains évoquent la dentelle, même si c'est vraiment la délicatesse même, les vins de Margaux. D'une façon générale. On n'est donc pas loin du paradoxe. Les vins conciliés avec un rare bonheur, finalement, la souplesse de certains cépages et la robustesse d'autres, donnant pour le tout un profil très médocain. Alors le prestige de l'appellation doit aussi, bien sûr, beaucoup à son fleuron le plus célèbre, le Château Margaux, dont l'appellation éponyme est issue. C'est un premier cru classé depuis 1855, on doit ça à Napoléon III, hein, et surtout aux courtiers bordelais qui ont travaillé sur le classement. Mais il y a autour de ce seigneur beaucoup d'autres châteaux extraordinaires. Les Brandt-Cantenac, Cantenac-Braun, Marquis d'Ansenbecker, Dosa, qui revient bien en termes de qualité, Palmer, bien sûr, qui est la vedette voisine, Dufort-Vivins, Rosan-Segla, Tirouan, Ferrières, etc., sont des crus classés de qualité. Mais il n'y a pas que des crus classés, il y a aussi des vins plus accessibles en termes de goût, de prix. Je pense par exemple à la Bégorzédée, à la Gurgue, la Tour de Bessan, Montbrison ou Château Siran, qui donnent des vins vraiment très très intéressants pour les consommateurs.
Ça peut vieillir ça, Philippe,
ça
ou pas?
Ça peut vieillir. Alors ce qui est intéressant, les Margaux, c'est que sur les crus bourgeois, par exemple, au bout de 5 ans, on est déjà vraiment dans un vrai plaisir dégustation. Pour les crus classés, il vaut mieux laisser passer les 5 ans et plutôt aller sur la dizaine d'années. Bien sûr, les grands crus, les très grands, Palmer en tête, par exemple, 61, si vous avez encore quelques bouteilles, téléphonez-nous, vous pouvez laisser
oui,
un message.
On va les partager avec
voilà,
vous.
Entre autres, ou d'autres grands millésimes de Château Margaux également. Donc, on peut vraiment aller très loin, plusieurs dizaines d'années pour les grandes années sur les grands terroirs. C'est un vin qui va très bien aller avec, là en ce moment, on commence à voir, j'espère, en fonction du temps, des champignons et les fameux cèpes. Mais c'est vrai que c'est un peu sec, hein. Mais allez, en cette saison en général,
vous aimez,
on peut en profiter.
Benoît, les champignons.
J'adore les champignons et alors les petits bolets, les petits cèpes de Bordeaux.
Et vous, Jacques,
les bouchons,
bien sûr. Enfin, il ne faut pas avoir vu le roman d'un tricheur de Sacha Guitry si on aime les champignons. Et un jour, d'ailleurs, il y a eu au Georges V un problème avec des morilles.
Exactement.
Qui pas cuites,
avec le chef qu'on ne va pas citer, ouais, Philippe Gendre.
Le club des 100, et j'avais fait un papier titré Garot Morille, ça n'a pas plu du tout.
Néanmoins, avec les champignons que l'on peut trouver dans le coin, ça va très bien. Alors, s'ils sont agrémentés en plus d'une belle côte de bœuf persillé à souhait, rôti et du bœuf de Bazas ou du coin là-bas, ça marche très très bien. Une volaille comme une pintade par exemple, c'est magnifique. Pourquoi pas un pigeon, un faisan, enfin des plats de ce style, une caille rôtie au jus.
Comment ça coûte une bonne
bouteille de volaille? Alors, les premiers vins, les crus bourgeois un peu accessibles, coûtent une vingtaine d'euros. Et comme vous en doutez, si vous trouvez une belle bouteille de Château Margaux ou de Palmer, par exemple,
là,
qui sont
combien,
un peu dans les vins, il faut compter plusieurs centaines d'euros. Mmh. Ces dernières années, en primeur, effectivement, Château Margaux, par exemple, se vendait à peu près autour de 500, 600 ou 700
euros.
Quoi. Donc, effectivement, il faut investir.
En primeur
et hors taxe. Mais néanmoins, c'est une belle appellation. C'est une appellation, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, 54. Ce qui est relativement rare, c'était la plus compliquée finalement à dessiner ou à déterminer comme dans ce décret, parce que toutes les appellations ont été globalement les grandes appellations célèbres, et Margaux avait déjà une certaine célébrité, ont été reconnues dès 36, 37 éventuellement, en tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu attendre 54 pour qu'il y ait un consensus pour créer l'AOC Margaux au milieu des autres qui existaient avant.
Merci beaucoup Philippe Orbach, nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris en public place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec Christophe Seraglini et le Vino Quiz.
Alors, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. La semaine dernière, la question était: quel est le cépage roi qui domine les Gigondas? Réponse A, le Cabernet Franc. Réponse B, le Grenache Noir. Et réponse C, le Gamay.
Et certains ont répondu Gamay.
mais la bonne réponse, c'est quand même la réponse B, le Grenache Noir.
Cette semaine, Christophe.
Alors, cette semaine, c'est sûr que je n'aurai pas le droit de jouer, puisque voici la nouvelle question. Quand il n'est pas un fromage, le Pecorino, c'est quoi? Réponse A, un vin rouge espagnol. Réponse B, un vin blanc italien. Réponse C,
un vin rosé grec. Je ne donnerai aucune indication pour aider à la réponse, mais pour répondre en tout cas et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail suivante invino@vinojeu.com. Et bien sûr, le gagnant sera tiré au sort parmi les multiples bonnes réponses.
Christophe, vous connaissez les vins effervescents aux feuilles d'or ou pas ?
Les vins effervescents en feuilles d'or ? Eh bien, non.
Eh bien, on en parle tout de suite avec Henri Périlou. Bonjour Henri.
Bonjour.
Alors, racontez-nous votre histoire de vin, avant de parler des feuilles d'or, là. Votre parcours, vous êtes qui, monsieur ?
Mon parcours, moi, je n'avais rien à voir avec le vin, si ce n'est que j'avais fait à Carcassonne, le lycée Charlemagne, oui. Avec tous mes collègues qui, eux, ont des propriétés, que ce soit Jean-Noël Bousquet, enfin, et d'autres, bien sûr. Ensuite, moi, j'ai eu un BTS électrotechnique, plusieurs usines dans le cadre de l'électrotechnique, laboratoire de génie biologique et médical, de l'édition aussi, enfin, etc., puisque j'ai revendu les brevets à partir de là. Et puis ensuite, sur le tard, je suis revenu aux mes premières amours, du fait du terroir magnifique que nous avons, la haute vallée de Limoux, que probablement tout le monde connaît autour de cette table.
Très belle région.
Et j'ai voulu finalement faire quelque chose de un petit peu différent sans l'être, en fait, parce qu'il y a de très bons cépages, naturellement le chardonnay, le mosaque, principalement.
Et même du pinot noir.
Et donc il y avait de quoi faire de très beaux assemblages. Il y a de quoi faire. Oui, qui a été racheté par Gérard Bertrand.
Exactement.
Dernièrement. Et donc, j'ai voulu à la fois faire ces assemblages sur la base d'une méthode traditionnelle et en même temps pouvoir le valoriser. Alors, le valoriser, le vecteur qui a été choisi, c'est la feuille d'or, simplement.
La feuille d'or, voilà. Tu peux décider.
La feuille d'or n'amène rien d'un point de vue organoleptique. Enfin, bon, tout le monde le sait, c'est neutre. Ça complique beaucoup pour le faire, parce qu'on a une législation qui est excessivement complexe.
Trop de feuilles d'or tue.
À ce niveau. Mais non, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a à peu près 2000 de 1 mm carré chacune. Ouais. Mais ça permet d'amener de la magie à la magie des bulles. Voilà, simplement, sur un assemblage qui se veut d'abord un très bel assemblage. Alors, on a deux principaux assemblages avec Chardonnay à 90%, Chenin, Pinot Noir, et Mosaque, Chardonnay.
David Cabal, voilà.
Je n'ai pas compris à quel moment intervient la feuille d'or dans votre affaire.
Ah, ben, la feuille d'or intervient au moment du dégorgeage. Où on insère, oui.
Vous mettez des feuilles d'or dans la bouteille ?
Où on insère les feuilles d'or dans la bouteille.
Ah, d'accord.
Donc on boit dehors.
Donc vous buvez comme chez un très bon pâtissier quand vous dégustez un gâteau au chocolat avec un petit peu de feuilles d'or, mais elles sont moins grandes.
On voit des petites feuilles d'or flotter dans les verres.
Je vous ai amené, tout à fait, je vous ai amené deux bouteilles naturellement.
Et on les voit flotter ?
Pour les goûter, et on les voit flotter, oui, tout à fait.
Parce que
ce sont de fines bulles. Philippe Forbach est passé à côté de notre stand pour Bulle Expo.
Mais est-ce qu'il s'est arrêté ? Parce que passer à côté, c'est bien.
Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le dire.
J'ai vu les bouteilles. Malheureusement, j'étais ce jour-là un petit peu pressé par certaines obligations, donc je n'ai pas pu goûter.
Oui.
Mais je veux dire, alors, juste une réaction par rapport à ce que vous nous dites. C'est esthétiquement parlant vraiment sympa, sûrement. Ça apporte rien donc pour la dégustation, si ce n'est le plaisir des yeux dans le premier temps. Et est-ce que au niveau de la bouche, parce que bon, on va goûter, mais est-ce que ça vient titiller d'une façon différente effectivement la réactivité du palais?
Quand on a une dent en or, par exemple, ça choque un peu.
Mais si elle est en argent, justement.
En tout cas, si justement Alain fait référence aux dents en or, c'est qu'on utilise l'or parce que c'est un matériau neutre.
Oui, c'est ça.
Et par conséquent, la réponse est.
Et ça se vend bien, Henri. Vous demandez combien vos bouteilles d'or? 800 euros la bouteille.
Alors on a 6 cuvées et ça va de. Non, pas du tout. On a 6 cuvées et ça va de 30 euros à 44 euros TTC. Prix public selon la marge que fait le distributeur. Oui, naturellement, ça peut être moins cher, ça peut être.
Et ça marche bien.
Écoutez, nous démarrons. Nous avons aujourd'hui un conteneur de 40 pieds qui est prévu pour le Mexique. Le Mexique. Oui, et oui.
Ah oui, c'est un pays qui a beaucoup d'or, donc.
probablement pas, non. Et un autre qui est prévu sur le Cameroun. Et en France, on est en train de mettre
en place le
marché.
Vous avez site internet, une adresse pour prendre enseignement
tout à fait.
Sur l'or des bulles.
C'est l'abréviation de Gold is Or, de l'or c'est l'or. Donc c'est GISO, on a créé cette marque.
GISO.
J'ai créé cette marque. Et donc GISO.
Comment ça s'écrit GISO?
GISO.
Voilà. Et après, c'est un point com, un point.
Point fr.
Point fr. Merci, Henri. On va continuer à vous suivre facilement. Ouais. L'or oblige, quoi.
Merci.
Bon courage pour ces bulles en or. Et d'une BFM accueille maintenant Jacques Pessis, journaliste, écrivain, chanteur, réalisateur, mais surtout président du Club des Croqueurs de Chocolat. Bonjour, Jacques.
Rebonjour.
Alors,
bonjour à
dites-nous,
tous.
Là, ça y est, ce guide, enfin.
Oui, il sort à la fin du mois d'octobre, l'édition 2017. On est en train de la peaufiner. Et chaque année, depuis plusieurs années, c'est-à-dire que ce club est né il y a 35 ans par hasard pour rire, il est aujourd'hui devenu une institution et on défend les artisans. On a 158 chocolatiers français, dont beaucoup de nouveaux, une trentaine de nouveaux.
Dans le nouvelle édition
Dans la nouvelle édition. Et une trentaine d'étrangers, parce que le chocolat français, aujourd'hui, est une valeur sûre à l'étranger, une valeur économique et gustative.
Mais comment ça marche? C'est-à-dire que les chocolatiers vous envoient des échantillons?
On a
c'est
un
vous
panel.
Les chercher,
non, c'est on a un panel de 25 personnes qui, semaine après semaine, goûtent les chocolats. On goûte à peu près 1000 chocolats par an.
Il est dur, votre métier, hein?
C'est très dur. Et on donne des notes. Et après, il faut écrire le guide à partir de la synthèse des notes et on voit les bonnes adresses, les nouveautés. On demande aux artisans de nous envoyer leurs spécialités. Alors, il y en a certains qu'on connaît à qui on écrit et d'autres qui viennent maintenant nous proposer leurs spécialités. Et on classe les incontournables, c'est-à-dire ceux qui sont les meilleurs. On donne des awards chaque année à des nouveaux chocolatiers qu'ils méritent et ils seront assez contents puisqu'un chocolatier qui a un award, c'est à peu près 30% de chiffre d'affaires en plus dans l'année.
Ah, carrément. C'est le Michelin du chocolat, quoi.
C'est assez étonnant. Et on donne des tablettes d'or, d'argent et de bronze en fonction de la qualité du chocolat.
Et alors, vous tenez compte du prix de vente ou pas dans votre
non,
discussion
non, parce que le produit. C'est que le produit. Le produit, la qualité du produit. Mmh. Le prix de vente, on sait que les artisans sont chers, mais curieusement, d'abord, c'est plus cher qu'un chocolat industriel. Mmh. Les chocolats industriels ont fait de gros progrès depuis quelques années, sont bien meilleurs, mais les gens vont chez l'artisan pour le plaisir de goûter un bon chocolat. Ça ne manque jamais.
Il n'y a pas trop de chocolatiers aujourd'hui, il y en a quand même.
Il y en a de plus en plus. C'est assez étonnant, mais tous à peu près réussissent et inventent en permanence. Alors il y a les classiques et il y a ceux qui inventent beaucoup de mélanges à base de fruits quelquefois. C'est assez étonnant et dans la plupart du temps c'est bon et même parfois très bon.
Et la réputation des Belges et des Suisses, vous en pensez quoi?
Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans quand on a commencé, le chocolat français n'existait pas. Aujourd'hui, le chocolat français est reconnu dans le monde entier. Les Belges, c'est autre chose. Les Suisses, c'est autre chose avec un lait différent quand le lait intervient dans le chocolat. Et pour vous dire l'état de notre chocolat, au Japon, Jean-Paul Évin, chocolatier bien connu, est considéré comme un dieu vivant. Le jour de la Saint-Valentin, qui est la grande fête du chocolat au Japon, il y a 6 heures d'attente devant sa boutique.
6 heures d'attente.
La boutique de Tokyo.
Toute cette pénurie, David Cobold, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Fourbac, avec un bon chocolat sélectionné par Jacques?
J'ai fait pas mal de parce que j'ai participé, moi, au début de cette aventure avec Nicolas Drabody, notamment.
Absolument, qui est un des fondateurs.
Exactement. Et donc, j'ai souvent dégusté avec Jacques à l'époque. Et j'ai suivi cette ascension quasiment d'abord de la notoriété du club, mais aussi, effectivement, ça a aidé une filière. Quand Jacques explique qu'effectivement le chocolat français est une référence aujourd'hui, la législation même est différente. Par exemple, la définition du chocolat en Suisse ou en Belgique n'est pas la même. Donc il y a une précision. Et en termes d'accord Mézévin, on avait fait quelques tests amusants parce que moi j'avais appris à l'école qu'on buvait de l'eau avec le chocolat.
Oui.
Parce que c'était amer, parce que c'était trop puissant, parce que ça ne mettait pas le vin en valeur.
C'est ce qu'on fait d'ailleurs.
Alors, ça marche bien quand on déguste. Parce que quand on veut déguster X mille et quelques chocolats dans l'année, il faut quand même boire un peu d'eau entre les deux pour se refaire le palais. Mais quand on veut se faire plaisir, comme chocolat, alors ça dépend comment il est préparé, parce qu'on peut avoir soit des bonbons au chocolat ou des... ça porte un nom particulier.
Non, des bonbons au chocolat, voilà. Des bouchées.
Ou si on utilise le chocolat sous forme de tablette dans une préparation préparée, comme un dessert, c'est encore un peu différent. Mais globalement, les vins doux naturels, c'est vrai que c'est classique. Hein. Les Banyuls, les Mori, les Rivesaltes, tous les
Porto, ça fonctionne très bien.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que certains rouges, un peu généreux, par exemple, un Châteauneuf-du-Pape, par exemple, ou pourquoi pas un Collioure dans le même
jeune
secteur.
Ou âgé.
Rouge tannique jeune.
Jeune, ça
avec
marche
du
bien.
Chocolat noir.
Sur le chocolat noir. Et quand ça prend un peu d'âge, ce qui est intéressant, ce sont les parfums, parce que finalement le côté torréfié d'un rouge un peu tertiaire, avec ses arômes de cacao, café et autres, vont finalement assez
Christophe
bien.
Christophe Zaglini, vous aimez le chocolat déjà, Christophe, ou pas?
Oui, j'aime bien. Je
est-ce que vous lisez le guide des concours de chocolat?
Ah non, je ne lisais pas le guide, mais je vais m'y plonger.
J'ajouterai
simplement peut-être, d'autres personnes ne vont pas être d'accord, c'est l'amarone.
Mais c'est la logique que Philippe vient de décrire.
Jacques Messis, on revient sur l'actualité des sorties parisiennes. Il ne faut pas louper le Spielblick.
Oui, le Spielblick, on l'attribue à tort à Coluche, c'est Pierre Dac, que Philippe Porbrac a bien connu. Et j'ai donc écrit la première comédie à partir des textes de Pierre Dac, ce qui ne s'était jamais fait. Et c'est une pièce, le Spielblick, qui est au théâtre d'Edgar avec Patrick Préjean et Jérémy Prévost, et c'est une plongée délirante du côté d'ailleurs où GKW Vanden Paraboom emmène Gédéon Burnemouve pour sauver le Spielblick des frères Foderche, et parce qu'il a un médaillon au nom d'Albert Tunoulet, car si le Spielblick ne se remet pas en marche à cause d'un problème de papsouille, de clarification, eh ben le monde est foutu.
C'est limpide. Haute actualité, alors moi je suis fan, hein. I love Piaf, je vais le voir 3 fois, c'est top.
Oui, c'est-à-dire que j'ai refait mon spectacle sur Piaf et le vieux en rose et noir, mais avec des traductions en anglais pour les touristes. Et on le joue le dimanche soir et le lundi soir à 20h au théâtre d'Edgar, parce que les touristes n'ont rien à faire. Et il y a, avec la traduction anglaise, ils découvrent et redécouvrent des chansons qui font la gloire de Paris, Ville Lumière.
Piaf, ça vous inspire, Philippe Aubrac?
Ah, c'est inspiré pas mal de chanteurs et chanteuses depuis. Et bien sûr que Piaf, c'est une des grandes références, une grande voix.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre actualité, Jacques Messis? Il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont se
Oui, il y a un livre sur Dalida qui va sortir, parce qu'il y a le film qui sort. Et c'est un livre-objet, avec des objets qu'on a récupérés, qu'on a vraiment mis en 3D, dans un livre qui racontera l'histoire d'amour, les histoires d'amour malheureuses de Dalida.
Dalida, David Cobold, ça vous parle, Dalida?
Grâce à Max Guazzini, notamment.
Oui, bien sûr. Oui,
qui a travaillé beaucoup avec Dalida, qui a débuté chez Dalida et Orlando.
Oui. C'est vrai.
S'il y a les 2-3 bonnes adresses de chocolatier à découvrir, mettons à Paris.
À Nanterre, il y a Gilles Créneau, qui est extraordinaire. À Saint-Germain-en-Laye, il y a Pascal Legac, qui est exceptionnel. Et puis, il y a Jean-Paul Évin à Paris et Pierre Hermé, qui est incontournable.
Ah, c'est les cartes, quoi. Si on sort de la frontière, vous avez une trentaine de chocolatiers non français?
Non français, notamment en Italie, il y en a beaucoup.
Ah oui?
En Italie, il y en a beaucoup. Au Japon, il y en a beaucoup. Mais alors, au Japon, ils portent des noms français. Il y a le Palais d'Or à Tokyo. C'est vraiment, ils sont formés en France et ils vont ensuite travailler au Japon.
Et ça marche aussi bien au Japon, le chocolat?
Franchement, un jour, j'étais avec un de mes patrons qui travaille chez Olombard, une maison d'édition de BD, et on fait une photo avec Jean-Paul Évin. Il part au Japon signer un contrat avec des mangas. Quand il a vu la photo de Jean-Paul Évin, il a signé tout de suite en disant, vous connaissez Évin, je signe tout de suite.
C'est incroyable, ça, c'est. On vous retrouve dans le Figaro notamment chaque semaine?
Tous les samedis dans le Figaro.
Tous les samedis.
Et je continue. Ça fait 32 ans que j'y suis, on m'a oublié dans un coin, je continue.
Oui, et puis vous appréciez. Bon, vous restez avec nous pour la suite de l'émission.
Et merci.
Jacques, et dans l'actualité, donc vous dites, il y a un livre qui est en cours ou pas?
Oh, il y en a 2-3 en livre.
Ouais, lesquels? Allez, un petit scoop quand même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je viens de faire une histoire de Paris en chanson, et je prépare un livre où Pierre Dac sera candidat à la présidence de la République, car il l'a été en 65.
Ah, il a été?
Il l'a été. J'ai tout repris, ces textes, et ils sont d'une actualité brûlante. Ouais. Et en 2017, ces propositions sont toujours valables.
Merci Jacques, nous sommes toujours en public et délocalisés chez Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour trouver David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui s'interroge et qui s'intéresse surtout aujourd'hui aux cépages rares en Champagne.
Oui, car il y en a.
Il n'y en a pas que 3 Champagne.
Oui, voilà, on n'en parle que de 3. Et même jusqu'à assez récemment, le site officiel de Champagne du CEVC ne parlait que des 3, le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay, qui sont dans cet ordre-là, en ordre d'importance. C'est quand même plus de 99% des plantations en Champagne, ces 3-là. Mais il existe 4 autres qui sont autorisés. Ces 4 autres sont 2 autres Pinots, parce que le Chardonnay est un Pinot, le Pinot Noir et le Pinot Meunier, c'est d'autres Pinots, donc c'est la même famille. Le Pinot Gris et le Pinot Blanc, et puis 2 autres qui sont issus d'autres groupes de cépages, rien à voir avec les Pinots, l'Arban et le Petit Mellier. Alors, pourquoi ces cépages, on peut se poser la question, pourquoi ces cépages ont disparu? D'ailleurs, d'autres ont réellement disparu. C'est le phylloxera qui a été le grand fossoyeur de ces cépages, puisqu'on a tué le vignoble en Europe, cette horrible aphide venue des États-Unis. Et ensuite, on a replanté dans l'urgence pour avoir une résistance aux maladies, un certain volume de production régulier année après année. Et on a éliminé probablement les cépages puisqu'ils étaient moins fiables ou bien parce qu'ils produisaient trop d'acidité. Je vous mets dans le contexte, dans les années 20-30, le climat n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Or, deux choses ont changé. D'abord, la recherche de qualité est devenue beaucoup plus exigeante. Et ensuite, on cherche la fraîcheur puisque le climat réchauffe et donc on perd de l'acidité. Or, l'Arbane et le Petit Mélier, ces deux variétés ont beaucoup d'acidité. Le Pinot blanc et le Pinot gris, beaucoup moins, mais c'est quelque chose de complémentaire. Alors, mon attention a été attirée vers l'existence de cépages par deux frères Aubry, qui, viticulteur indépendant à Jouy-les-Reims, à côté de Reims, qui ont commencé à planter, à surgreffer sur des vignes existantes ces quatre cépages dans les années 1993-94. Et j'ai dû goûter pour la première fois le résultat, une cuvée qui s'appelle Le Nombre d'Or, avec les sept cépages, en 2001, je pense, vers 2001. J'ai tellement aimé cette cuvée que j'en ai acheté. C'est la preuve que les journalistes achètent ce qu'ils aiment, en tout cas certains. Quand on aime, on achète. Et ce vin continue à être produit. Ils font d'ailleurs deux variantes. Alors, ensuite, différentes dégustations, un peu au hasard, m'ont conduit à m'intéresser davantage à ce système. Et je constate que dans l'Aube, la partie sud de la Champagne, c'est là où on trouve le plus de cuvées issues soit de Pinot Blanc, soit d'Arbane, soit de Petit Mélier. Parce que la raison est historique. L'Aube, autrefois, a été considérée comme une deuxième zone de Champagne. Et ces cépages, d'ailleurs, pendant très longtemps, même le Gamay a subsisté dans l'Aube. Maintenant, il est interdit, sauf pour les vignes qui sont encore en in situ. Mais on trouve des cuvées pures faites avec soit le Pinot Blanc, soit le Petit Mélier, soit l'Arbane, par des producteurs comme Moutard, comme Drapier, ou comme Chassenay d'Arche, qui était une très bonne coopérative dans l'Aube, dont j'ai goûté un très joli Pinot Blanc récemment, issu du millésime 2008. Alors, ce qu'il a de particulier, je trouve que c'est plus tendre que le Chardonnay. C'est très fruité, le fruit est plus présent. Et en même temps, c'est délicat. Ce n'est pas un cépage en force, c'est un cépage en délicatesse. Et pour le champagne, je trouve que ça, c'est une vraie qualité. Et pour des gens qui ont peur de champagne un peu agressif, comme certains blancs de blanc peuvent l'être s'ils ne sont pas suffisamment vieillis ou insuffisamment dosés ou les deux, le Pinot Blanc est une bonne solution. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis empressé d'en goûter un autre. Il y a un vigneron dont j'ai tout à fait à l'autre bout du champagne, près de Reims, c'est-à-dire dans la partie nord de la montagne, qui s'appelle Pierre Trichet, dont j'ai dit beaucoup de bien à cette antenne il y a 9 mois environ. Qui vient de sortir une cuvée qui s'appelle 1333, qui décrit le nombre de flacons qu'il a fait avec le Pinot Blanc. Et ça aussi, c'est un très très joli vin.
Ça peut vieillir, ça veut dire on peut l'attendre un peu.
On le verra. Parce que la cuvée de Chassenay d'Arche est de 2008, donc il a déjà 6 ans, et il n'est pas prêt de s'effondre. Donc je pense que là, on aura des choses très intéressantes. Alors, soit en assemblage, soit en cuvée unique. Il y a beaucoup de producteurs qui en ont fait. Olivier Oriot, au Risset, par exemple, fait un très joli pur Arbane, Moutard également. On peut les trouver. Mais ça reste moins de 1% du vignoble champenois, donc il faut bien chercher pour les trouver.
Henri Périlou, vous en pensez quoi, en tant que producteur de bulles dans une autre région qu'en Champagne, cette diversité qu'on peut trouver dans cette belle région aussi?
Oh, c'est effectivement, on ne connaissait que les trois principaux cépages.
Oui, quand si on pose la question à l'amateur de vin,
il y a des découvertes. Et quand on fait du blanc de noir avec du pinot noir, et essentiellement, nous, on en fait dans notre région, c'est effectivement très beau.
Je crois que ce qui est important dans cette affaire-là, c'est la diversité. Parce qu'une partie de une bonne partie de la réussite de la Champagne, c'est l'unicité. C'est une seule région, 34 000 hectares. Quasiment une seule appellation, puisque les rosés de Rissé ou le Côte de Champenois, ça compte
pas. Les négociants.
Et du coup, on a une certaine uniformité. Alors, bien sûr, à la diversité par les cépages, par les styles de vinification, par les méthodes culturelles éventuellement, mais je trouve que ça donnait un autre volet de diversité.
Ça enrichit
la région et la diversité.
Philippe Orbach, vous partagez l'avis de David?
Je partage l'avis, et ce qui est intéressant, c'est dans le décret de l'appellation Champagne, initialement, il y avait effectivement trois cépages, et quand on pose la question, même dans les concours de sommelier, c'est quoi les trois cépages du décret d'appellation, les gens répondent toujours Pinot, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay.
Oui, mais pas que.
Or, dans le décret, c'était Pinot, tout court,
oui.
Et David l'a expliqué tout à l'heure, puisque le Chardonnay était considéré considéré comme un pinot à l'époque, même s'il en fait partie aujourd'hui, on le dissocie. Le pinot noir, le pinot meunier, le pinot blanc.
On l'appelait d'ailleurs le pinot chardonnay au
départ. Exactement, notamment dans le Mâconnais. Et puis l'Arbane et le Petit Millet. Et donc, et l'Arbane et le Petit Millet sont des cépages blancs. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de constater que sont plutôt, c'est assez logique d'ailleurs, hein, dans cette région, les cépages blancs qui ont tendance à dominer en termes de nombre en tout cas.
Christophe Sagliani, vous appréciez-vous le champagne ?
Oui, enfin, ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est que j'apprécie les champagnes un petit peu hors normes. Je trouve parfois que les champagnes, c'est un peu normé,
oui,
on est un peu formaté de boire la même
chose.
C'est une
force et faiblesse.
Et c'est appréciable de voir des champagnes, si j'ose dire, qui tirent sur le vin avec les vins tranquilles qui ont les variétés des vins tranquilles.
David Cobol, pour
juste un mot pour les auditeurs. Parfois, les synonymes locaux peuvent masquer un peu la réalité, puisque le pinot gris s'appelle très souvent localement le Fromentot et le petit mêlier a le très joli synonyme de l'enfumé.
On va presque l'appeler l'anglais. Allez, merci David Cobold. Une vidéo BFM accueille maintenant un nouvel invité, Olivier Moret, notamment propriétaire du château Louis à Bordeaux. Je l'ai rencontré il y a quelques jours dans les salons du Shangri-La.
BFM Business. Invino BFM.
Olivier Moret, le président de l'Udéric et propriétaire du château Louis à Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1950, un doctorat de droit des affaires, criminologie, et vous avez créé votre boîte en 75, donc vous n'avez jamais été salarié.
Exactement, j'ai commencé, on faisait des petits jobs d'étudiants et de fil en aiguille, on en a fait une vraie société.
Et en 1985, vous avez lancé le kiosque de la Madeleine.
Exact, à l'image de ce qui se faisait d'ailleurs aux États-Unis, ma famille était dans le théâtre, on a eu l'idée de faire ce kiosque qui sont les places de théâtre vendues à moitié prix pour le jour même.
Le jour même, il y en a trois à Paris aujourd'hui.
Il y en a trois à Paris et c'est un formidable facteur d'incitation pour les gens se déplacent pour acheter une place, il y en a plus pour le spectacle qu'ils voulaient, ils achètent autre chose, contrairement à tout ce qui est sur le web où ils ouvrent, il n'y a pas de place, ils referment. Là ils se sont déplacés, ils achètent.
1991, vous rachetez un restaurant très sympa, l'Ami Louis.
Exact. L'Ami Louis, c'est un mythe. C'était on a fait de surtout ce qui a été urgent, c'est de ne rien toucher. Depuis, c'est immuable. Depuis, je crois 1920, on n'a cédé à aucune mode de la nouvelle cuisine, de l'ancienne cuisine. On est toujours pareil. On a toujours les mêmes produits dans le même cadre, pratiquement avec les mêmes serveurs et le même chef.
Et vous vendez des super bouteilles de vin. Il y a une carte des vins qui est exceptionnelle.
On a une des caves, les plus importantes de Paris, puisqu'on a 30 000 bouteilles et on a même repris le magasin d'à côté uniquement pour la cave. On a fermé le rideau de fer et on a investi la cave. Et beaucoup de gens nous disent « Ah, mais agrandissez la Ami Louis, c'est formidable, vous avez cette surface. » On a toujours refusé. On le garde vraiment, c'est un petit joyau, un petit trésor.
Et en 2010, vous avez ouvert Boulevard Saint-Germain.
Boulevard Saint-Germain. Ah oui, alors nous, on s'est développé petit à petit aussi dans les lieux de restauration. Et notre plus, je dirais, c'est de créer des produits en adéquation avec les lieux où on doit aller, que l'on doit investir. Et on a créé donc le premier restaurant de Ralph Lauren, Boulevard Saint-Germain. À l'origine, ça devait être un salon de thé. C'est devenu un restaurant à part entière. Et c'est un restaurant qui marche très bien. Et avec tout le talent de Ralph Lauren et de ses équipes, c'est un lieu merveilleux de décor, d'environnement.
Et qui a choisi le décor ? C'est vous ?
C'est Ralph Lauren. C'est vraiment l'univers de Ralph Lauren. Et nous, on est très encadré. Nous, on est des modestes exécutants qui exécutons très bien.
Il y a un excellent saumon, en plus, là-bas. Année-là, si je puis dire, il y a également le mini-palais.
Oui. Alors, le mini-palais, c'est un peu une petite fierté, parce que nous, on faisait, en une société, donc, Ludéric de communication d'événements, on faisait une grande convention pour une marque automobile qui s'appelle Mini. On faisait, en fait, une convention pour BMW dans la Nef, et on avait des bureaux le long du péristyle du Grand Palais, et je voyais ce péristyle qui était rempli de feuilles mortes, et j'ai dit, mais pour l'été, faisons un salon de thé. Le salon de thé, c'est devenu un vrai restaurant qui est resté ouvert un an, tellement ça marchait bien. Et après, ils ont fait un appel à candidature, enfin un appel d'offres, et c'est nous, évidemment, qui l'avons gagné, heureusement, parce qu'on aurait été très frustrés, parce qu'on avait pris quand même des risques en ouvrant ça. C'était le mini-palais, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, vous le connaissez, c'est assez vaste, mais c'était un lieu qui était étagé, il y avait des bureaux sur deux étages, avec des fenêtres qui étaient grillagées. Enfin, c'était...
Il y a eu beaucoup de travaux.
Il y a eu énormément de travaux.
Et le chef, donc, aujourd'hui, c'est Stéphane Dabeauville.
Oui, Stéphane Dabeauville. Qui surveille chaque assiette qui sort. Il faut savoir qu'on sert en moyenne 200 couverts à chaque repas. Quand il y a des expositions au Grand Palais, c'est monstrueux parce que avec la FIAC, on pourrait ouvrir à 9h et finir jusqu'à 24h avec toujours autant de monde. Et Stéphane Dabeauville, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui surveille la moindre assiette, la moindre feuille de salade.
Et vous avez d'autres partenariats avec Alain Ducasse, par exemple ?
Oui, on est associé avec Alain Ducasse dans deux bistrots qui sont au Lyonnais et Benoît, et on vient de monter, là aussi c'est une petite fierté, parce que c'est sur un concept un petit peu moderne, on a fait ça pour Unibail Rodamco, qui voulait pour le Forum des Halles, la brasserie du 21e siècle. Donc on a imaginé ce que pouvait être la brasserie du 21e siècle, on a repensé un peu les items d'autrefois, on les a réactualisés, il y a une spécialité qu'on trouve nulle part ailleurs, enfin si dans un restaurant, mais pas comme ça à grande échelle, ce sont les soufflets.
Les soufflets.
Oui, et c'est assez difficile à faire des soufflets, surtout en grande quantité, mais on les fait.
Vous gérez également des lieux comme le Golfe, le Saint-Cloud ou le Conseil économique et social ?
Oui, alors le Golfe de Saint-Cloud, en fait, c'est quand même de la restauration, de l'événement, parce qu'on gère effectivement tous les événements. On doit se développer en faisant des petites conventions. C'est un lieu très très privilégié, puisqu'on est au pont de Suresnes, à 5 minutes, enfin c'est Longchamp, et à 5 minutes de là, on a un parc de 100 hectares au milieu de la ville, et on se croirait, on ne sait pas où, et le soir, près du Clubhouse, arrivent des biches. Et en fait, elles restent toute la journée.
On ne sait pas comment elles sont arrivées.
C'est magique. Oui, c'est un truc hallucinant. Et on peut organiser des petites conventions là-bas. Il y a même des chambres qui ont été refaites. Et c'est surtout, il y a trois restaurants. Enfin, c'est un vrai petit ensemble vraiment exceptionnel.
Alors, Olivier, on parle un peu de ce château Louis. Pourquoi investir dans le vin? Et pourquoi à Bordeaux? Et pourquoi Louis?
Alors, Louis, parce que nous avons ce restaurant auquel vous avez fait allusion, qui est l'Ami Louis. On trouvait ça drôle d'appeler le vin. C'était un joli clin d'œil au restaurant. Mais il se trouve que, curieusement, dans notre restaurant, on le vend pas trop, parce que les gens qui viennent à l'Ami Louis ne veulent que des
hauts brillants, des
oui, des latons. Mais Château Louis, on fait tout pour que ce soit formidable. C'est un Saint-Émilion grand cru, qui est à Saint-Christophe-des-Bardes, pour ceux qui connaissent bien. On est juste sur le coteau. Il y avait des terres qui étaient un peu moins bonnes. On les a vendues. On a rajouté des terres de la Safer. On est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire un très bon vin. C'est Stéphane de Renoncourt qui n'a plus rien à prouver, qui s'occupe de nous, et on a mis tout en œuvre pour que ce soit au top, que ce soit les cuves, que ce soit le ramassage qui fait grain par grain, qui est mis immédiatement dans la cuve. Vraiment, c'est mis un cahier.
Vous avez mis les moyens, quoi.
Oui, incroyable. Et surtout, on fait des vendanges vertes plus qu'il en faut. C'est ce que trouve le propriétaire, si je puis dire. Mais on a des rendements assez faibles, mais c'est vrai qu'on sort 30-40 000 bouteilles qui sont vraiment
30-40 000 bouteilles, avec un premier vin et un second vin.
Avec un premier vin et un second vin. Et on a une politique de pas vouloir vendre trop cher, et on a des notes du temps de Parker. Maintenant, ça a été remplacé par un certain nombre de gens, mais Parker, nous, on a toujours eu des notes supérieures à 92.
Ce qui pour est les deux vins.
Honorable.
Pour le second vin et le premier vin,
oui, exactement. Ce qui est même exceptionnel, plus qu'honorable.
Mais exactement. Et alors, pour terminer, donc, le prix, comment ça vaut, donc, une bonne bouteille pour le second vin et pour le premier?
Le second vin est à 13 euros. On le vend après. Bon, ça, c'est un peu par grande quantité. Et le premier vin, dans les 26, 28, ce qui sont des vins, mais ils sont en vente, au Lafayette Gourmet, enfin dans les très bons endroits, au Cave Le Grand. Alors c'est vendu un petit peu plus cher à la bouteille, ce qui est normal, mais c'est voilà.
Et un site internet peut-être pour prendre un renseignement?
Absolument, Château Louis.
Château Louis,
oui, tout simplement.
.com. .com directement. Merci beaucoup Olivier Moret et bon vent pour vos multiples projets.
BFM Business. Invino BFM.
Voilà, c'était Olivier Moret, rencontré il y a quelques jours dans le 16e arrondissement à Paris. Fin de ce numéro 616 d'Invino BFM. N'oubliez pas, il faut courir aller voir la pièce Le Spielblick, également I Love Piaf, le Piaf le dimanche soir pour les Anglais et les Français aussi. Fin de ce numéro 616 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 15h, nouvel horaire. D'ici là, bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.